Le journal avec Bernadette Chamonnaz, bonjour.
Bonjour, réforme des retraites, CGT, gouvernement, le ton monte. Chacun accuse l'autre de pourrissement. Attendu dans la tourmente, les vœux présidentiels joueront-ils l'apaisement? Premiers éléments de réponse dans le journal. En attendant, RER, métro, bus, la situation devrait s'améliorer pour les franciliens aujourd'hui. Côté train, en revanche, rien de nouveau. Des lunettes 100% remboursées à partir du 1er janvier, c'est la suite du reste à charge zéro. Représailles américaines en Irak et Syrie, frappent contre le Hezbollah, accusé d'attaques répétées contre des intérêts américains. Et puis nous serons aussi à Raqqa, en Syrie, où l'on cherche toujours les milliers de morts de la barbarie de Daesh. Dans ce journal encore, notre série, toute la semaine à 8h, les grands chantiers 2020 dans le monde. Aujourd'hui, nous serons en Russie pour un terminal gazier titanesque, dangereux pour l'environnement. Un réveillon du 31 vegan, comment ça marche? Le skieur Alexis Pinturo qui tutoie les sommets. Et puis à 8h20, antisémitisme et laïcité en France. On en parle avec votre invité Hélène.
Haïm Korsia, grand rabbin de France, dans le grand entretien de la matinale. Chers auditeurs, vous avez la parole. Appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
26e jour de grève ce lundi contre la réforme des retraites, et si la CGT et le gouvernement se parlent, c'est par presse interposée et pour s'échanger, pas vraiment des amabilités. Hier dans le journal du dimanche, le secrétaire général de la CGT accuse le gouvernement, je cite Philippe Martinez, d'organiser le bordel. Côté gouvernement, on réplique, syndicalisme d'opposition systématique, de blocage et parfois même d'intimidation. Voilà pour les paroles, dans les actes. Pourtant, les franciliens vont peut-être sentir aujourd'hui une certaine amélioration, surtout pour les RER A et B qui fonctionnent depuis 6h30 ce matin jusqu'à 19h30, certes avec une rame sur 3. 14 lignes de métro ouvertes, beaucoup uniquement là encore aux heures de pointe. Pas de quoi soulager complètement donc les voyageurs que vous avez rencontrés, Farida Noir.
Le RER B a assuré une grande partie de la journée aujourd'hui. C'est une première depuis le début de la grève, et même si c'est seulement un train sur 3, Jibril, l'usager de la ligne, apprend la nouvelle avec soulagement.
Ah oui, donc tant mieux, alors ça va nous soulager un peu. Pour moi encore, c'est pas encore assez, quoi. Bon, le gouvernement n'a qu'à lâcher un peu. Il n'a qu'à faire 50-50. Comme ça, on va être tous soulagés, quoi.
Paul va pouvoir utiliser un petit peu plus sa ligne préférée, aux heures de pointe uniquement, mais c'est déjà ça.
Ce qui m'arrange, c'était la ligne 9, puisque je la prenais assez souvent. C'est un petit soulagement, voilà. Mais c'est pas tout à fait la fin, et encore, je sais pas si l'année prochaine ça ne va pas durer.
Du mieux donc, mais pas assez pour rendre le sourire à Séverine.
Je trouve inadmissible ce qui se passe. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Omar, lui, se contente de cette amélioration. Avec plus de trains, il va pouvoir s'épargner quelques kilomètres à pied.
C'est une très très bonne nouvelle, parce que vraiment la galère, hein, on en a subi, on a beaucoup subi. Mais s'ils peuvent l'arrêter, ce serait une bonne chose pour tout le monde, quoi.
Seules deux lignes resteront fermées toute la journée, la 7 bis, et pas de chance pour Eric, il y a la sienne aussi.
Exactement, la 13 qui est la plus fréquentée de Paris et qui ne fonctionne toujours pas, mais c'est pas une surprise.
Ça s'adapte.
Le trafic des bus s'améliore aussi légèrement avec 3 bus sur 4 en moyenne aujourd'hui.
Voilà pour ce reportage de Farida Noir. Du côté des trains, pas de franche amélioration du trafic. Un TGV sur 2 aujourd'hui, un Transilien sur 4 et 3 TER sur 10. Enfin, un nouveau front anti-réforme pourrait s'élargir dans les raffineries. Des AG sont convoqués aujourd'hui, notamment à Grand-Puy en Seine-et-Marne, où quelques grévistes ont voté la semaine dernière le blocage des expéditions. La CGT pousse à la paralysie d'un maximum de raffineries, mais pas sûr que sa position l'emporte parmi des salariés divisés. Actuellement, en tous les cas, assure l'Union des industries pétrolières, il n'y a aucun risque de pénurie d'essence.
Dans ce contexte tourmenté, des vœux présidentiels très attendus demain soir.
Très attendus, en effet, alors qu'aucune négociation officielle n'est prévue avant le 7 janvier entre syndicats et gouvernement. Alors que peut dire Emmanuel Macron? Il s'est retiré à Brégançon pour préparer son intervention. Très discret, le président de la République, depuis le début d'une crise qui dépasse maintenant en longueur celle de 95. Du côté de l'Élysée, ces derniers jours, un mot était avancé, apaisé. Mais comment, Laurence Perron?
Une intervention courte, autour de 15 minutes, où le président de la République devrait tracer un cap sur la réforme des retraites à venir. Le chef de l'État ne s'est plus exprimé depuis son allocution à Abidjan le 20 décembre, où il avait justifié le maintien du régime spécial des militaires.
Quand on est militaire, on ne touche pas la retraite. On a une pension. C'est différent.
Depuis, plus de paroles présidentielles. Le président aurait beaucoup consulté avant de se retirer au fort de Brégançon, où il a travaillé le discours qu'il livrera demain. Il n'a pas pu lui échapper qu'au foyer de la contestation à gauche, un nouveau feu a été attisé par la droite, qui voit dans les accords conclus avec une dizaine de corporations un recul sur la fin des régimes spéciaux. Cela ébranle une partie de sa majorité qui s'est engagée pour défendre un système de retraite universel. Les marcheurs de l'aile dite sociale ont poussé, eux, leur avantage pendant les fêtes en relayant qu'un âge pivot glissant qui ne serait pas le même pour toutes les professions serait à l'étude. C'est sans doute l'une des annonces que pourrait faire le président de la République. Remiser cette proposition du Premier ministre, un âge d'équilibre à 64 ans, ne pas en faire un totem, rallier ainsi à la réforme les syndicats réformistes, isoler la CGT et les partis de gauche en les faisant apparaître comme des jusque-boutistes hostiles à toute réforme.
Laurence Perron, vœu présidentiel donc demain soir à 20h. À partir du 1er janvier, des lunettes remboursées à 100%. C'est la suite de la réforme du reste à charge zéro. L'an dernier, on a pu améliorer ses dents, ses oreilles, sans débourser un centime. En 2020, on va donc pouvoir s'occuper de nos yeux, refaits à neuf, quoi, et pas forcément plus moches. Les opticiens qui devront vous proposer ces lunettes ne négligeront pas l'esthétique, comme dans ce magasin où s'est rendue Véronique Julia.
Je vous sors cette petite monture rétro, couleur écaille. Elle existe en noir, la voilà. C'est, comme vous le voyez, une collection restreinte, mais relativement complète, de 55 montures.
55 montures en tout, 35 modèles pour les adultes, 20 modèles pour les enfants. Cette collection, remboursée à 100%, Didier Cohen, opticien dans une grande enseigne, la montre sans rougir. Elle sera réassortie chaque année pour coller aux tendances, et le client, dit-il, s'y retrouvera.
Il s'agit en fait de déclinaisons simples, de montures grand public qui plaisent. Je vous rappelle la phrase de la ministre, elle voulait que les équipements soient socialement acceptables.
L'offre comprend la monture et les verres. Prix moyen de l'équipement, 125 euros, entièrement pris en charge par la Sécu et les mutuelles. On pourra panacher aussi, prendre seulement les verres en reste à charge zéro et se faire plaisir sur une monture en tarif libre. Les verres ne seront pas les plus sophistiqués du marché, mais les grands myopes, c'est promis, ne seront pas pour autant condamnés à porter des binocles lourds et épais.
Un fort myope aura aujourd'hui à partir de 8 dioptries, c'est-à-dire une correction forte mais qui est courante, hein, le verre le plus fin du marché en termes de matériaux. Les gens seront très convenablement équipés avec cette 100% santé, surtout dans le cas des verres simple vision, c'est-à-dire non progressifs.
Avec une monture à 30 euros et des verres à 160 euros maximum l'unité pour les corrections les plus importantes, pas de miracle, une grande partie de cette offre nous sera directement importée d'Asie.
Et puis, autre changement du 1er janvier, il concerne cette fois les employés à domicile. Leurs impôts seront désormais prélevés à la source.
États-Unis, Iran, la guerre par Irak interposé.
Oui, l'armée américaine a frappé effectivement sur le sol irakien hier. Des positions de milices chiites pro-iraniennes, des frappes de l'aviation qui auraient fait au moins 15 morts. Washington a lancé ses représailles après une nouvelle attaque qu'elle attribue au Hezbollah. Il y en a eu plusieurs ces deux derniers mois. Elle a tué donc cette fois pour la première fois un Américain, un civil, d'où les frappes et la menace du ministre américain de la Défense. Si ces attaques continuent, nous répliquerons à nouveau. L'Irak, mais aussi la Syrie, qui n'en a pas fini avec la guerre, dans géopolitique, tout à l'heure après ce journal, Pierre Aski donnera d'ailleurs un coup de projecteur sur Idlib, où une catastrophe humanitaire se prépare. Dans ce journal, nous, on donne un coup de projecteur sur une autre ville martyre, Raqqa, l'ancienne capitale de l'organisation État islamique, qui a tué, exécuté, décapité, brûlé vif, pendant 4 ans, sur place publique. Elle compte toujours ses morts. Aujourd'hui, les équipes de la défense civils fouillent les charniers à la recherche de disparus. Notre reporter Noé Pignède a suivi l'une d'elles.
Au milieu d'un champ brumeux, une vingtaine d'hommes exhument des victimes de l'organisation État islamique. Pour Abou Ahmed, un masque chirurgical sur le visage, ce travail est avant tout un devoir moral.
Nous devons déterrer ces corps pour leur donner une sépulture digne, car ils ont été enterrés sans suivre le rite musulman. C'est le travail le plus dur qui soit. Les cadavres, l'odeur de la mort, psychologiquement, c'est dur. La nuit, j'ai peur, je fais beaucoup de cauchemars. Nous travaillons avec la mort, elle nous tue à petit feu.
Devant nous, emballés dans une bâche blanche qu'ils sont en train d'ouvrir, il y a un corps en décomposition avec des vêtements militaires. Le corps n'a plus de tête. Il a probablement été décapité par les djihadistes de l'organisation État islamique.
On prélève des échantillons, le radius, des poils et ses vêtements.
Le docteur Mahmoud Hassan, 61 ans, devrait être à la retraite.
Il est l'un des deux seuls médecins légistes de Raqqa.
Aucun médecin ne veut faire ce travail. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Notre mission est essentielle pour que la vie reprenne à Raqqa. Il faut nettoyer la ville de ses morts.
2 ans après la libération de l'ancienne capitale du groupe État islamique, près de 5000 cadavres seraient encore enfouis dans la région. Raqqa, Noé Pignied, RFI pour France Inter.
Reportage donc à Raqqa de Noé Pignied.
Toute la semaine dans votre journal de 8h, Bernadette Chamonaz, notre série Les grands chantiers 2020 dans le monde.
Alors aujourd'hui nous allons en Russie, les Russes qui augmentent leur emprise sur la nouvelle route maritime du Nord. Elle est rendue accessible par le réchauffement climatique, en projet, en chantier, Arctic LNG 2. Chantier d'un coût total de 21 milliards de dollars. Il accroît les capacités d'exportation du gaz russe vers l'Asie, mais ce n'est pas sans risque, Claude Brouillot.
Arctic LNG 2 a pour particularité d'être raccordé directement au gisement gazier terrestre d'Outrenié. Une proximité essentielle qui va réduire les coûts de production et de transport en direction principalement de l'Asie et à raison de 20 millions de tonnes par an pour des réserves sur place évaluées à plus de 50 ans. Le fleuve Ob, profond à son embouchure seulement d'une dizaine de mètres par endroit, a été creusé pour faciliter l'accès des méthaniers géants de 300 mètres de long et malgré les avertissements d'organisations de défense de la nature qui craignent des bouleversements pour l'écosystème. Les forages de puits, la construction de routes, l'installation d'une usine de liquéfaction du gaz ont débuté. Dans moins de 3 ans, Arctic LNG 2 effectuera son tour après le site de Yamal, situé à 30 km en face, sa première livraison de gaz vers la Chine, l'Inde ou le Japon. Les glaces deviendront alors encore moins un obstacle, mais la fonte du pergélisol, qui entraîne la libération de gaz sous forme d'explosion, a-t-elle été suffisamment anticipée à proximité de ce nouvel Eldorado? Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
Et pour Alexis Jenikov, l'un des responsables pour la Russie du Fonds mondial pour la nature, eh bien ces nouvelles installations peuvent entraîner de réelles modifications pour la faune et la flore à proximité. C'est un grand risque.
Le problème principal que nous constatons, c'est que l'exploitation par la mer sera plus dangereuse que sur la terre. La difficulté, c'est que les bateaux doivent entrer dans l'embouchure qui n'est pas assez profonde. Il faut donc creuser, mais c'est cher et compliqué. Et les travaux engendrent la pollution. En plus, dans l'embouchure, il y a de l'eau douce dans laquelle vivent de nombreuses variétés de poissons. L'eau de mer va s'imposer à l'eau douce et ça risque de modifier sérieusement l'écosystème.
Et puis, autre dégât majeur pour l'environnement, c'est en Australie cette fois, avec ces incendies qui reprennent de la vigueur attisés par des vents violents, des températures caniculaires dans le sud-est. Des dizaines de milliers d'habitants et de touristes doivent évacuer aujourd'hui. On estime que la superficie déjà brûlée correspond à la Suisse. Règlement de compte sur fond de trafic de drogue, c'est la piste privilégiée à Marseille où un homme a été abattu d'une balle dans la tête. Le tueur, armé d'un fusil d'assaut, a fait irruption hier dans un gymnase de la cité de la Paternelle où plusieurs personnes jouaient au football. L'affaire Matzneff, l'écrivain accusé de pédophilie, dans un livre à paraître jeudi. Réaction ce week-end du ministre de la Culture, Franck Riester. Il exprime son soutien aux victimes de cet écrivain. Quant au secrétaire d'État à la protection de l'enfance, il examine l'éventualité de poursuites judiciaires.
8h14, Alexis Peintureau au-dessus du
26e victoire en Coupe du Monde. Aucun skieur français n'a jamais fait mieux, Fanny Lechevestrier.
26 victoires en Coupe du Monde. Aucun français dans l'histoire n'a jamais fait mieux. Pas même Jean-Claude Killy ou Luc Alphand. Cela vous assoit un skieur, mais pas Alexis Peintureau. Pas vraiment le style du champion de Courchevel. Toujours dans la retenue dès qu'il s'agit d'évoquer ses objectifs de la saison.
Construire son hiver sur de la régularité, aller chercher des victoires, être régulier sur les avant-postes. Et si on arrive à faire ça, il peut y avoir de belles choses à la clé. C'est vraiment ça l'essentiel, se faire plaisir, gagner et puis ensuite il y a de belles choses qui peuvent se passer.
De belles choses comme le gros globe de cristal venant récompenser le vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Un trophée qui tend les bras au skieur de 28 ans depuis la retraite à la fin de l'été. Du maître Marcel Hirscher. La bête, le surnom de Peintureau, semble d'ailleurs de plus en plus marcher dans ses traces, comme l'Autrichien en son temps. Peintu évolue désormais avec une structure privée de préparateur et d'entraîneur. Cet hiver, le Savoyard s'est même pris un pied-à-terre à Altenmark, là même où le roi Hirscher préparait ses victoires. Sans bruit, Peintureau construit donc sa légende et celle du ski français qui attend depuis 22 ans, depuis 1997, le retour du fameux globe. Dans l'histoire, seuls deux tricolores l'ont découvert. Jean-Claude Killy et Luc Alphand, encore eux.
Alors, je ne sais pas si Alexis Pinturault pourra se permettre un bon gueuleton, mais les véganes, si, ils prennent le pari sans viande, sans crème, sans œufs. Reportage dans une épicerie végane à Nantes, Paul Sertilange.
Qui a dit qu'un repas de fête végane, ça n'existait pas? Voici celui que Camille a cuisiné pour Noël.
Guacamole et chips, velouté de champignons. Et le plat principal, ça va être une tourte. Et le dessert, on fait un strudel.
C'est la troisième année déjà qu'elle suit ce régime et ça se passe bien avec sa famille.
Ma famille n'est pas du tout végane, mais... C'est moi qui pense aux recettes et au final ça me plaît à chaque fois.
C'est plus compliqué pour d'autres comme Manuel.
Disons que ma famille est assez conservatrice donc c'est pas forcément évident.
Le programme n'est généralement pas très vegan.
Foie gras, huîtres. Poisson. Ma mère avait préparé des choses à l'avance pour que je puisse manger quelque chose à part.
Pour ce qui est du prix, les articles de l'épicerie sont beaucoup plus chers qu'en grande distribution. Mais quand elle fait le bilan, Camille l'assure, elle économise de l'argent.
Les Noëls coûtent beaucoup moins cher vu qu'on achète quasiment que des végétaux, des produits qui au final sont pas si chers que ça quand on cuisine. Et même en comptant l'alcool, au final ça revient trois fois moins cher que ce qu'on consommait avant.
Et d'ailleurs, l'alcool parfois n'est pas vegan. Luce vend quelques bouteilles dans son épicerie.
Je me renseigne auprès du domaine ou pour savoir quelle technique de filtrage ils utilisent, sachant qu'il y a beaucoup de domaines qui n'utilisent plus en fait de produits animaux, mais c'est pas indiqué.
Selon l'Institut d'études Xerfi, les véganes représentent 0,5% de la population française.
Alors, végane ou pas, je ne sais pas, Hélène, hein, si vous allez pouvoir réveillonner, vous.
Ce sera sans doute un bon bouillon, végane ou pas, sans sort, on verra bien. Et puis au lit. Merci Bernadette Chamonnaz pour le journal. Le dernier lundi de l'année sera-t-il sous le soleil?
La météo avec les fermiers de Louer qui ne font rien. Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Louer, libre par nature.
Mais oui, Stéphanie Fromentin, la grisaille matinale va s'évacuer au profit de belles éclaircies.
Oui. Alors ce matin, c'est encore bien gris quand même. À l'ouest, de la pointe Bretonne jusqu'à l'Aquitaine et la vallée de la Garonne, les nuages bas, parfois doublés de brouillard, auront du mal à se dissiper. Ils résisteront même sur le littoral de la Bretagne à la vallée de la Garonne. De même, en plaine d'Alsace, dans le Val-de-Saône et la vallée du Rhône, ainsi que dans la vallée d'Auvergne, les brouillards parfois givrants évolueront en nuages bas. Ils auront du mal à s'évacuer sur l'Alsace et le Val-de-Saône, et puis près de la Méditerranée. Les nuages bas venus de la mer se morcelleront un peu en journée pour faire place à quelques belles éclaircies. Sur le reste du pays, c'est-à-dire au nord, sur les Pyrénées et toutes les frontières de l'Est, la journée s'annonce bien ensoleillée.
Mais ça pique encore un peu au réveil, les gelées sont bien présentes.
Oui, notamment sur un grand quart nord-est où les valeurs sont comprises entre moins 5 et 0 degrés. Les gelées sont aussi fréquentes dans l'intérieur des terres avec moins 3 à plus 2. C'est plus doux près des côtes, 0 à 5 degrés. Et cet après-midi, le mercure grimpe doucement. Les températures s'étageront entre 6 et 11 degrés sur toute la moitié nord jusqu'au Lyonnais, mais localement 3 à 6 sous la grisaille tenace. Au sud de la Loire, vous pourrez compter sur 9 à 14 degrés, 11 à 16, voire 17 des Pyrénées au littoral méditerranéen.
Merci Stéphanie Fromentin.